Bilan Stock Express.
Ohayo, waga bitchi.
Chronique manga.
Et on est parti pour ce Bulan Stock Express version manga cette fois-ci, avec Idol un jour, Idol toujours. C'est de Tinto au scénario et de May Studio au dessin. Le tome 1 est sorti aux éditions K-Books, enfin dans la collection K-Books de chez Delcourt. Comme vous l'aurez compris dans le titre, peut-être, ce manhwa, donc un manga coréen qui est surtout mis en ligne au départ, qu'il a édité par K-Books, va parler de K-pop et en particulier des idols. Idols qui sont des chanteurs, danseurs, comédiens ou comédiennes, évidemment. Il n'y a pas que des femmes, que des hommes, qui sont entraînés pendant des années pour ensuite faire partie d'une équipe de K-pop. Et là, on va suivre Yoon Woo qui va devoir, lui, malheureusement, abandonner son rêve. En effet, il allait faire ses débuts d'idol après 10 ans d'entraînement, mais un terrible accident lui coûte son visage. Et donc, évidemment, une idol sans visage, bah, c'est pas une idol. On peut pas vraiment lui mettre un masque parce que du coup, ça fera plus davantage peur qu'autre chose. Il est donc obligé de repartir dans une autre carrière. Il va devenir coach. 10 ans après, on le retrouve. Il regrette évidemment de ne pas avoir pu faire cette grande carrière d'idol. En tout cas, c'est ce qu'il espérait. On va le retrouver, il va avoir un crash qui va le blesser encore une fois. À part que là, il va mourir normalement, mais il se réveille après le crash qui lui arrive, mais 6 ans en arrière. Il est donc revenu juste avant l'audition qui allait marquer son entrée dans un groupe de K-pop. Et donc, il a une seconde chance qui lui arrive. Alors, est-ce qu'il va réussir cette fois-ci à intégrer ce groupe de K-pop? Est-ce que son niveau est assez bon et est-ce qu'il a toujours les capacités de l'époque? Est-ce qu'il n'est pas juste sauvé sans pouvoir intégrer vraiment ce groupe? Bah, ça nous permet de voir dans ce manhwa tous les coulisses un petit peu de la préparation des groupes de K-pop qui sont en fin de compte des très très stricts et très très, comment dire, très normalisé. Donc c'est un petit peu la difficulté que moi je trouve dans cette musique, c'est que en fin de compte on crée les groupes, on les formate et on sait très bien qu'il y en a un qui va être le plus beau, il y en a un qui va être le meilleur chanteur, l'autre le meilleur danseur et ainsi de suite. Donc chacun a son rôle et des fois c'est un petit peu frustrant quand on ne connaît pas de découvrir ça. Moi je trouve que c'est un petit peu, voilà, ça manque de personnalité souvent parce que justement on leur propose de faire des choses qui sont un peu toujours les mêmes. Bon là, du coup, évidemment, ce manhwa est vraiment fait pour les grands fans de K-pop et je pense que ça peut vraiment leur convenir avec un dessin assez simple et puis avec, bah, comme toujours un petit peu dans les webtoons, parce que c'est des webtoons adaptés en bouquin, donc du coup des fois un peu un manque pour moi de décor par moment. Des décors un peu plats quand il y en a, c'est toujours un petit peu le regret que j'ai moi dans cette collection K-Books où on va au personnage en principe, dans le principal quoi, et on oublie un petit peu que la bande dessinée c'est aussi de l'arrière-plan. Donc voilà, Idol un jour, Idol toujours aux éditions K-Books. Une annonce rapide de suite qui sont sorties. Endergeister, tome 12, L'ultime exorciste, c'est de Takashi Yomoyama. Vous vous rappelez, c'est un exorciste que l'on suit qui s'appelle Akira. En tout cas, il prend des noms à chaque fois de réalisateurs de films parce qu'il est fan de films et suivant le pays où il va prendre des noms différents. Là, c'était Akira Kurosawa. Et il va devoir aller chasser différentes bêtes non humanoïdes, donc des différents démons à travers le monde. Et on va suivre depuis donc 12 tomes. Ça va continuer, hein, parce qu'il y en a 20 au Japon sur un dessin très beau. Vraiment très beau parce que ça change un petit peu de certains mangas en particulier. On est davantage sur un dessin un peu plus européen, dans les visages en particulier, beaucoup plus, un peu plus rond, un peu moins marqué géométriquement. Et par contre, on a quand même encore des clichés qui peuvent marquer. Et puis les démons sont très très beaux. Et puis voilà, ça ressemble pas mal aussi, il y a beaucoup de choses autour du cinéma qui évidemment touchent cet univers. Alors dans le tome 12, il y a un loup-garou immortel qui va combattre l'homme le plus fort des Philippines. Et puis pendant ce temps-là, donc Akira et sa collègue vont faire un plan minutieux pour venir à bout d'un démon. Donc voilà, ça continue, c'est toujours un petit peu redondant, mais en même temps, quand ça fonctionne, souvent on essaye de tirer un petit peu les histoires pour que ça intéresse le maximum de monde. Alors, pareil, qui continue encore, c'est After God, le tome 7 est sorti aux éditions Glénat. C'est un manga de Sumi Eno qui, pour l'instant, est donc à son 7e tome en France et le 9e au Japon. Donc, on n'est pas loin de la diffusion immédiate quasiment de la série. Il y a des divinités qui sont installées dans Tokyo. Il y a toute une zone dangereuse dans laquelle on ne peut pas aller. Et puis, du coup, on va évidemment suivre des personnages qui, eux, prennent soit le risque d'y aller, soit qui sont là pour éventuellement chasser les démons. Alors là, on est pareil. C'est des séries qu'il faut lire depuis le début pour vraiment être imprégné de cet univers. Là, l'univers est un peu plus sombre, un petit peu plus, même dans les dessins aussi, on le ressent. Les personnages sont plus tourmentés. On ressent vraiment des émotions plutôt négatives et puis même des blessures, etc., qui sont assez fortes et assez difficiles à voir par moment. En tout cas, After God, à lire depuis le début, à déconseiller aux plus jeunes, parce que du coup, c'est vraiment assez sombre et assez glauque. Et du coup, superbe dessin, par contre, très minutieux, avec beaucoup, beaucoup de détails. Et ça, c'est vraiment toujours très agréable. Night with the Cat, le tome 6 est sorti, c'est de Kyuryu Z. C'est aux éditions Glénat que le sixième tome de Nights with a Cat est sorti. Donc évidemment, des nuits avec le chat, c'est donc la vie d'un chaton. D'un chat plutôt maintenant, parce qu'il est devenu grand, avec sa maîtresse. Et donc, c'est toujours aussi mignon. C'est un dessin la plus simple, un peu plus stylisé, en particulier pour les visages masculins et féminins, où on a des fois même des visages où il n'y a que les yeux. Donc, il n'y a pas du tout de bouche, il n'y a pas du tout de nez. Il n'y a jamais de nez quasiment. Et puis, là, le chat, pareil, il est un petit peu plus cartoonesque, il a un peu plus ce grosse boule, un petit peu comme Chi, et encore moins précis que Chi par exemple. Donc voilà, on est davantage sur un truc un petit peu, comment on appelle ça, kawaii, un petit peu imaginatif, mais plutôt mignon, et ça fonctionne assez bien quand évidemment on est fan de chats et puis d'histoires autour des chats. Donc des petites histoires courtes à chaque fois dans Nights with a Cat. C'est tout mignon. Bon, après, c'est un peu redondant, je trouve. Mais bon, ça se laisse lire sans grand déplaisir. Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Baiji. C'est le tome 4 qui est sorti. C'est de Yukinori, Natsukawa Gucci au dessin et au scénario, d'après évidemment la série Tokyo Revengers de Ken Wakui, et c'est aussi aux éditions Glénat. On est là donc dans le spin-off d'une des très très grandes séries qui s'appelle Tokyo Revengers, qui est cette fois-ci donc cette série Tokyo Revengers Letter from Kezuki Badji, centré sur Shifuyu Matsuno et Kezuki Badji, justement. Ça raconte l'histoire qui n'avait pas été révélée dans l'histoire principale, c'est-à-dire leur rencontre jusqu'à leur adieu. Donc ce sont deux personnages que l'on rencontre dans la série principale. On voit qu'ils sont amis pendant la série, mais on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, comment éventuellement ils se sont séparés. La série peut être lue séparément de la série principale, mais le gros intérêt, c'est justement de prendre des personnages qui sont peut-être secondaires dans la série principale pour les mettre en avant. Donc peut-être connaître la série principale est quand même vraiment meilleur et vraiment mieux pour cette lecture, parce qu'autrement vous allez peut-être il va y avoir des références que vous ne comprenez pas. Moi c'est un petit peu ce qui m'arrive, j'ai pas lu Tokyo Revengers, je l'avoue, et c'est vrai que je suis moins manga quand même que BD franco-belge, et du coup ça me met il y a certaines choses que je n'ai pas compris obligatoirement ou dont je n'ai pas les références, donc il faut que j'aille les chercher. Bon, c'est pas très dramatique, hein, c'est pas très difficile. Le dessin par contre est vraiment très très beau, avec beaucoup d'expressions qui sont assez impressionnantes dans le dessin, très précis et très fin. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui arrivent dans cette série, mais c'est quand même pour les fans de Tokyo Revengers, ça va être vraiment vraiment leur livre, spin-off, je pense, de Tokyo Revengers. Quand on a besoin de sa dose et que la série est finie, on a besoin de sa dose. Tokyo Revengers, Letter from Kezuki Badji aux éditions Glénat. Il y en a 4 pour l'instant en cours. Là, c'est le 4e qui est sorti. Il y en aura 6 en tout. Parce qu'au Japon, c'est arrivé à la fin des 6 tomes. Une nouveauté cette fois-ci avec l'âme du dragon, c'est de, je suis en train de chercher, de Oshino Makoto, et c'est aux éditions Doki Doki. C'est un seinen aux éditions Doki Doki. On est dans un monde imaginaire où tout est régi par les dragons, sauf une île qui s'appelle Ryogoku, qui est une terre de bannissement où les humains sont bannis et donc sont isolés. Et là, on va suivre Izagi. Izagi, c'est un homme qui exerce le métier de bourreau. Et à chaque fois qu'il va donc décapiter quelqu'un, il va entrevoir les souvenirs de celui qu'il va décapiter. Donc lui, ça lui donne un pouvoir qui lui permet de voir si c'est quelqu'un de bien ou pas, et ainsi de suite. Un jour, il va devoir exécuter Tatsunami, un général qui va donc devoir mettre à exécution donc la sentence qui lui a été prononcée. Mais leur rencontre va créer une sorte d'un grand tourbillon qui les emporte tous les deux vers le monde des dragons. Et donc, ils vont devoir survivre, et Izagi en particulier va devoir découvrir un petit peu ce monde des dragons. Et évidemment, on est complètement sur quelque chose de fantastique, avec un univers qui est bien construit, vraiment bien construit, et que l'on veut voir avancer, évidemment, l'histoire en tout cas. Ce premier tome donc nous met comme ça en relation les différents personnages. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont arrivés dans le monde des dragons, on va voir comment leur périple va continuer. Pour l'instant, au Japon, il y a 4 tomes qui sont parus. Le premier seulement en France, mais le deuxième arrive incessamment sous peu. Donc du coup, on va avoir la suite de l'âme des dragons sûrement très très bientôt. Le dessin est très fin, avec beaucoup beaucoup de détails. beaucoup de choses qui vont se passer aussi dans les visages, dans les yeux des personnages. Donc on a des émotions qui peuvent passer assez facilement, et surtout on a des très belles scènes de combat, des très belles scènes d'attaque, et puis des dragons qui sont assez impressionnants. Donc du coup, l'âme des dragons, vous allez pouvoir découvrir ce nouveau manga donc aux éditions Doki Doki. Le premier tome est donc sorti. Et la suite de Promise Cinderella est sortie aux éditions Glénat. C'est de Horeko Tachibana. Le tome 3 est sorti, le tome 4 sort là incessamment sous peu. Donc c'est aux éditions Glénat. Je vous avais déjà présenté le premier tome. J'avais trouvé ça un petit peu spécial, la mise en place de ces deux personnages qui vont se rencontrer, qui n'ont rien à faire ensemble à la base. Parce qu'on va suivre Ayame, qui est une jeune femme au foyer, qui a été chassée du foyer par son mari et qui donc lui demande le divorce en plus. Donc elle se retrouve vraiment sans ressources dehors de chez elle. Et là, un jeune homme qui apparemment est très riche et donc va lui proposer une chose, c'est « voilà, je te donne des défis, ça va être le jeu de la vie exactement, et tu vas devoir accepter ça, et en échange, je t'héberge et tu viens vivre donc avec moi ». Et bah, du coup, Ayame va être obligée d'accepter ces conditions de Issei, un lycéen qui, lui, veut juste s'amuser au départ avec elle. Et puis donc, dans chaque tome, il va y avoir... Bon, au départ, c'est vraiment on essaye de comprendre un petit peu ce que veut chaque personnage. Et puis après, il va y avoir différents défis que va lui lancer Issei à Ayame. Dans le second tome, elle doit obliger son mari à lui payer une prestation compensatoire de 3 millions de yens. Donc il va falloir qu'elle prouve l'infidélité de son mari. Dans le troisième tome, elle va devoir, cette fois-ci, à baisser le caleçon de Koya, un employé de l'auberge dans lequel elle vit avec son Issei, à la réputation plutôt de playboy. Et donc, Ayame va devoir essayer de s'exécuter. Mais peut-être que ça va se retourner contre Issei. Et dans le quatrième tome, là, Ayame a décidé de changer un petit peu et qu'elle veut reprendre sa liberté. Et là, peut-être que ça ne va pas vraiment être accepté par Issei, parce que Issei, lui, voudrait apparemment garder Ayame auprès de lui. Il panique un petit peu. Et il veut rester, il veut passer encore du temps avec Ayame. Donc c'est cette situation-là qui est assez originale de domination et en même temps d'attirance petit à petit qui va se former, je pense. En tout cas, c'est vraiment... Moi, ce qui m'avait dérangé dans le premier tome, c'est ce rapport de domination. Et puis petit à petit, on va avoir un petit peu de... Elle se rebelle un petit peu, elle va un petit peu à l'encontre de ce qu'on lui demande. Même si elle sait qu'elle est obligée d'accepter les conditions pour pouvoir continuer à vivre un peu plus aisément que dans la rue, certes. Donc ça s'appelle Promise Cinderella aux éditions Glénat. C'est assez original et vraiment, une fois qu'on a passé cette situation de « voilà, je te domine et je montre que j'ai du pognon et par cela je te domine », après ça devient beaucoup plus agréable à lire, je trouve, que... si c'était resté vraiment dans cette question juste de domination pure d'un homme contre une femme. Promise Cinderella, donc aux éditions Glénat. Une trilogie qui est sortie aux éditions Doki Doki, The Unexpected Goddess. C'est de Tsukasa Harima au dessin, c'est de Anna Hamasaki au scénario, et les caractères design de Yoon. C'est aux éditions Doki Doki. Alors, dans cet univers un peu ancien, un peu moyenâgeux, tous les 100 ans, dans le Saint Royaume Arialant, 4 jeunes filles sont sélectionnées pour hériter du pouvoir de la déesse. Mais cette année, première année que ça se passe au début de cette série, une nouvelle fille, donc elles ne sont plus que 4, elles sont plus 4, mais elles sont 5, arrive pour devenir déesse. Donc Lita Deni, la fille du peuple réprouvé, un peuple qui ne normalement, n'a pas le droit de participer à cette commémoration, dirons-nous. Elle vit dans la misère et elle va se retrouver donc évidemment parmi les prétendantes à ce rôle. Et bien sûr, ça va bien bouleverser l'ensemble de sa vie, mais aussi l'ensemble du royaume, parce que évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'une roturière du bas peuple peut éventuellement récupérer un pouvoir qui va évidemment la monter beaucoup plus haut que sa condition de base. Le dessin est absolument magnifique. Le dessin est d'une finesse terrible. On sent les influences de Lady Oscar un petit peu. Voilà, on est dans ce type de costume, avec des costumes un petit peu avec des grands cols, avec des redingotes croisées et ainsi de suite. C'est vraiment sublime, avec des combats à l'épée, et en même temps on est dans un, donc là il y a un côté un peu moyenâgeux, mais en même temps on est dans un univers complètement fantasmagorique. Donc The Unexpected Goddess et Goddess, je ne sais pas comment on le dit exactement, est vraiment une très bonne trilogie, avec des dessins très très beaux, très fins, très précis, et beaucoup de détails en plus, et puis des personnages vraiment bien campés. Vraiment une très très bonne trilogie à découvrir donc aux éditions Doki Doki. Allez, quelques tomes encore avant de finir ce Bulle en Stock Express spécial Japon avec Jack Dugard, La Légende de Fatima. Le tome 4 est sorti, c'est de Tomato Soup au scénario et au dessin, et c'est aux éditions Glénat. Dans ce manga, on suit Fatima, qui est une jeune fille qui a survécu à la guerre, et ensuite elle est offerte en tant qu'esclave dans une famille fortunée. Au début, rien ne l'intéresse, mais elle ne souhaite que rentrer chez elle. Mais un jeune homme va expliquer la richesse du savoir et de la culture, ce qui va la toucher en plein cœur et ce qui va lui donner envie d'aller voir plus loin. Fatima, c'est une esclave déportée donc de Perse. On est au XIIIe siècle dans l'Empire mongol, qui est le plus puissant du monde à l'époque. Par la suite, elle va se sentir de plus en plus à l'aise dans cette cour impériale donc elle vient d'intégrer, et elle va commencer à même devenir espionne pour certaines conditions. La légende de Fatima que l'on va suivre dans ce Jadugar, avec un dessin très ancré dans un passé mais vraiment absolument magnifique, un peu style Tezuka, mais totalement assumé de son autrice. Je ne suis même pas sûr que ce soit une autrice. Je ne sais pas, c'est Tomato Soup. Des auteurs ou des autrices donc, qui ont fait ces dessins vraiment en hommage pour moi à Tezuka, et on a suivi de cette histoire de Fatima avec le plus grand plaisir, le plus grand bonheur. Évidemment, on touche un côté très historique, un côté très dur, un côté très très empathique qu'il faut avoir pour pouvoir lire aussi cet album. C'est pas obligatoirement pour les plus jeunes, mais Jadugar à découvrir si vous voulez vraiment avoir quelque chose, un manga original dans l'époque où beaucoup de mangas se ressemblent un petit peu. Donc Jadugar aux éditions Glénat. Écoute ton cœur, Atami. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le titre du manga. C'est de Asa Tanuma et le premier tome est sorti aux éditions Moonlight, dans la collection Moonlight exactement, de chez Delcourt. Atami, c'est un jeune garçon très très beau qui est au lycée et qui a vraiment beaucoup beaucoup de succès. Tous les jours, il reçoit des lettres d'amour d'une fille de son lycée. C'est la routine pour lui, évidemment, même si son cœur ne déborde pas d'amour pour cette jeune fille. En effet, il est davantage attiré par les garçons. Et c'est loin, du coup, d'être le plus facile à assumer, surtout quand on a un succès féminin qui est probant. Et donc, on va suivre Atami dans ses aventures. Donc, c'est un questionnement autour de ses émois d'adolescent, de recherche d'identité sexuelle en particulier. Donc, écoute ton cœur, Atami. Un dessin très simple, des fois un petit peu trop simple, je trouve, parce que du coup, les personnages n'ont pas des visages assez marqué pour moi, donc voilà, ça manque un peu enfin c'est fin et en même temps ça manque de détails, je trouve. Donc c'est assez simpliste, je trouve, comme dessin, et c'est ce qui m'a un peu dérangé dans ma lecture. Après, le propos est simple aussi, donc du coup voilà, j'ai trouvé un peu mitigé ce Écoute-moi Atami aux éditions Moonlight, dans la collection Moonlight de chez Delcourt. Enfin, à vous de vous faire votre opinion, hein. C'est toujours pareil dans une émission qui présente des albums de bande dessinée, où là, c'est du manga. Évidemment, c'est votre décision qui sera la dernière et votre goût qui sera mis en avant. Écoute-moi Atami aux éditions Moonlight. Et pour finir, on va parler de Brave Belle. Je vous avais parlé du premier tome, et là, les trois premiers sont sortis aux éditions Doki Doki. On en est arrivé à la moitié de la série, parce qu'il y en a 6 en tout au Japon. Donc il y aura bien les 6 qui vont sortir en France. C'est de Mebu au scénario, de Okane au dessin. Et donc c'est une sexologie. Donc au début, est paru aux éditions Doki Doki. On suit Tsuji, qui est en dernière année de lycée. Il est intelligent, sportif, il est plutôt d'une nature généreuse et tend une main secourable à toute personne dans le besoin. Cependant, les gens autour de lui sont froids, craintifs envers lui, simplement parce que, c'est le chef d'un yakuza. Sa famille est donc son seul soutien émotionnel parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec les autres. C'est vrai que l'avoir comme parent, un des chefs yakuza, évidemment, c'est plutôt difficile pour rentrer après en interaction avec d'autres personnes qui, eux, ne sont pas du tout dans ce milieu. Donc évidemment, sa famille était son soutien, mais je dis bien « était » parce qu'elle a été massacrée. Il se retrouve vraiment tout seul, et là, il va laisser libre cours à sa vengeance. Il va découvrir un secret que son père lui a caché, évidemment, vu que c'est secret. Une petite sœur dotée d'un ton très spécial et qui, en plus, du coup, vu qu'elle a un don très spécial, elle est poursuivie par une organisation mystérieuse. Et c'est comme ça que je vous avais présenté la série. Et sachez que Brave Bell, les trois premiers tomes sont sortis. Et du coup, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment un bonbon thriller. C'est plein de rebondissements avec un dessin absolument sublime. Je trouve là, par contre, beaucoup de finesse, beaucoup de détails. Et puis surtout des scènes vraiment assez fortes. Des scènes où on voit les personnages des fois seuls, mais avec des postures et des regards qui sont vraiment impressionnants. Vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce Brave Bell que j'espère pouvoir lire jusqu'au bout. C'est un peu violent en plus pour certains. Faites attention à ne pas mettre ça entre toutes les mains. C'est en tout cas très efficace, très, très efficace. Les trois premiers tomes sont sortis. Brave Bell aux éditions Doki Doki, c'est vraiment du tout bon. Les trois premiers tomes sont sortis. Je vous le conseille. Hein. Et c'est comme cela que va finir cette émission. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les chroniques sur ma page Facebook Steven Bescon, sur Bulle en stock aussi, sur la page Facebook, et puis bien sûr toutes les émissions sur radiograndparis.fr. Allez, à la prochaine pour une nouvelle émission Bulle en stock express spéciale. Vous le saurez bientôt. Bilan Stock Express.